Deuxième partie, chapitre 1.
Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu ? Demandait Ordinov, tout à fait éveillé et la tenant encore fortement serrée dans ses bras brûlants. Qu'as-tu, Catherine ? Qu'as-tu, mon amour ? Elle sanglotait doucement, les yeux baissés, et cachait son visage en feu sur la poitrine du jeune homme. Elle resta si longtemps sans pouvoir parler, tremblante, tout comme si elle avait peur. « Je ne sais pas, je ne sais pas », prononça-t-elle enfin d'une voix presque imperceptible. Elle suffoquait et à peine pouvait articuler ses paroles. « Je ne me rappelle pas comment je suis venue ici chez toi. » Elle se serra encore plus longtemps contre lui, et comme mue par un sentiment irrésistible, elle lui baisa les épaules, les bras, la poitrine, et enfin, dans un mouvement de désespoir, cacha son visage dans ses mains et baissa la tête sur ses genoux. Quand Ordinov, angoissé, parvint à la faire se relever et lui fait s'asseoir près de lui, son visage brûlait de honte, ses yeux imploraient le pardon et le sourire qui paraissait sur ses lèvres faiblement s'efforçait de vaincre la force irrésistible de la nouvelle impression. Elle paraissait de nouveau effrayée de quelque chose, méfiante. Elle le repoussait de la main, le regardait à peine et la tête baissée dans un chuchotement craintif. Elle répondait à ses questions par mots entrecoupés. « Tu as peut-être eu dans ton sommeil quelque cauchemar ?» demanda Ordinov. « Ou quelque vision terrible ? Dis, il t'a peut-être effrayé. Il délire, il n'a pas sa raison. Peut-être a-t-il prononcé des choses que tu ne devais pas entendre ?» A-t-il dit quelque chose ? Oui ! Non, je n'ai pas dormi, répondit Catherine, domptant avec effort son émotion. Le sommeil ne venait pas, lui sais-tu tout le temps. Il ne m'a appelé qu'une seule fois. Je me suis approché de lui, je l'ai appelé, lui ai parlé. Il ne m'entendait pas, il est très mal, que Dieu lui vienne en aide. Alors, l'angoisse m'a saisi au cœur, une angoisse épouvantable. J'ai prié tout le temps, prié sans cesse. Et voilà, ça m'a prise. Assez, Catherine, assez, ma vie, assez. C'est hier que tu as eu peur. Non, je n'ai pas eu peur hier. Est-ce que cela arrive parfois ? Oh oui, cela arrive. Elle tremblait toute, et de nouveau effrayée, se serrait contre lui comme un enfant. « Vois-tu, » dit-elle en retenant ses sanglots, « ce n'est pas sans raison que je suis venu chez lui. Ce n'est pas sans raison qu'il m'était pénible de rester seul, » répéta-t-elle en lui serrant la main avec reconnaissance. « Assez versé de larmes sur le malheur d'autrui, garde-les pour le jour pénible où tu seras seul à souffrir où il n'y aura personne avec toi. Écoute, est-ce que tu as déjà aimé ? Non, avant toi je n'ai pas aimé. Avant moi ? « Et tu m'appelles ton amour ?» Elle le regarda soudain avec étonnement. Elle voulait dire quelque chose, mais se tut et baissa les yeux. Puis tout à coup, son visage devint rouge et à travers les larmes encore chaudes oubliées sur ses cils, ses yeux brillèrent. On voyait qu'une question agitait ses lèvres. Elle le regarda deux fois d'un air rusé et ensuite, brusquement, elle baissa de nouveau les yeux. « Non !» « Je ne puis pas être ton premier amour, » dit-elle. « Non, non, » répéta-t-elle en hochant la tête pensivement, tandis qu'un sourire éclairait de nouveau son visage. « Non, » dit-elle enfin en éclatant de rire, « ce n'est pas moi qui puis être ton amour. » Alors elle le regarda, mais tant de tristesse se reflétait soudain sur son visage, une angoisse si désespérée se peignait sur tous ses traits, Ordinov fut saisi d'un sentiment de pitié incompréhensible, maladive de compassion pour un malheur inconnu et avec une souffrance indicible. Il la regarda. « Écoute, ce que je vais te dire, » prononça-t-elle d'une voix qui allait au cœur en serrant dans ses mains les mains d'Ordinov et s'efforçant d'étouffer ses sanglots, « écoute bien et cesse de m'aimer comme tu m'aimes maintenant. » « Ce sera mieux pour toi, et ton cœur deviendra plus léger et plus joyeux, et tu te garderas d'une ennemie redoutable, et tu acquerras une sœur aimante. Je viendrai chez toi, si tu le veux, je te caresserai, je n'aurai pas honte de demeurer près de toi. Je suis resté avec toi 2 jours, quand tu as été gravement malade. Reconnais en moi ta sœur. Ce n'est pas en vain que j'ai prié ardemment la Vierge pour toi. Tu ne trouveras pas une autre sœur pareille. Tu peux parcourir tout l'univers. Tu ne trouveras pas un autre amour pareil si ton cœur demande l'amour. Je t'aimerai de tout mon cœur comme maintenant. Et je t'aimerai parce que ton âme est pure, claire, transparente. Parce que quand je t'ai regardé pour la première fois, j'ai reconnu aussitôt que tu es l'hôte de ma demeure, l'hôte désirable, et que ce n'est pas par hasard que tu es venu chez nous. Je t'aime parce que pendant que tu regardes, tes yeux aiment et parlent de ton cœur. Et quand ils parlent, alors je sais tout de suite ce que tu penses. C'est pourquoi je veux donner ma vie pour ton amour, ma liberté. Il me serait doux d'être l'esclave de celui que mon cœur a trouvé. Ma vie n'est pas à moi. Elle appartient à un autre, et ma liberté est entravée. Mais accepte une sœur. Sois mon frère, prends-moi dans ton cœur. Quand de nouveau l'angoisse tombera sur moi, fais-toi même que je n'ai pas honte de venir chez toi et de rester assise avec toi une longue nuit. M'as-tu entendu? M'as-tu ouvert ton cœur? Ta raison a-t-elle compris ce que je t'ai dit? Elle voulait dire encore autre chose. Elle le regarda, posa sa main sur son épaule et, enfin épuisée, se laissa tomber sur sa poitrine. Sa voix s'arrêta dans des sanglots passionnés. Sa poitrine se soulevait fortement et son visage s'empourprait comme l'Occident au soleil couchant. « Ma vie !» murmura Ordinov, qui sentait ses yeux se voiler tandis que sa respiration s'arrêtait. « Ma joie !» dit-il, ne sachant plus quels mots il prononçait, ne les comprenant pas, et tremblant de la crainte de détruire d'un souffle tout ce qui lui arrivait et qu'il prenait plutôt pour une vision que pour la réalité, tellement tout était obscurci devant lui. « Je ne sais pas, je ne te comprends pas, je ne me rappelle pas ce que tu viens de dire. Ma raison s'obscurcit, mon cœur souffre, ma reine !» L'émotion étouffa sa voix. Elle se serrait de plus en plus fortement contre lui. Il se leva, il n'y pouvait plus tenir. Brisé, étourdi par l'émotion, il tomba à genoux. Des sanglots enfin s'échappèrent de sa poitrine et sa voix, qui venait droit du cœur, vibrait comme une corde dans toute l'amplitude de l'enthousiasme et d'un bonheur inconnu. « Qui es-tu? Mais qui es-tu, ma chérie? D'où viens-tu, ma colombe ?» prononça-t-il en s'efforçant d'étouffer ses sanglots. « De quel ciel es-tu descendue? C'est comme un rêve qui m'enveloppe, je ne puis croire à la réalité. Ne me fais pas de reproches. Laisse-moi parler, laisse-moi te dire tout, tout. Depuis longtemps je voulais parler. Qui es-tu? Qui es-tu, ma joie? Comment as-tu trouvé mon cœur? Dis-moi, y a-t-il longtemps que tu es ma sœur? Raconte-moi tout de toi. Où étais-tu jusqu'à ce jour? Dis-moi comment s'appelait l'endroit où tu as vécu. Qu'as-tu aimé là-bas? De quoi étais-tu heureuse et qu'est-ce qui t'a rendu triste? L'air était-il chaud là-bas? Le ciel était-il pur? Quels êtres t'es chers? Qui t'a aimé avant moi? À qui là-bas s'est adressée ton âme pour la première fois? Avais-tu ta mère? Était-ce elle qui te caressait quand tu étais enfant? Ou comme moi, es-tu resté seul dans la vie? Dis-moi, étais-tu toujours ainsi? À quoi rêvais-tu? À quoi pensais-tu? Lesquels de tes rêves se sont réalisés et quels furent les autres? Dis-moi tout! Pour qui ton cœur de vierge a-t-il battu pour la première fois? Et à qui l'as-tu donné? Dis-moi ce qu'il me faut donner en échange de ton cœur. Parle, ma chérie, ma lumière, ma sœur. Dis-moi comment je puis mériter ton amour? Sa voix s'arrêta de nouveau. Il baissa la tête, mais quand il leva les yeux, l'horreur le glaça. Ses cheveux lui dressèrent sur sa tête. Catherine était assise, pâle comme une morte. Immobile, elle regardait l'espace. Ses lèvres étaient bleuâtres comme celles d'un cadavre, et ses yeux étaient pleins d'une souffrance muette, terrible. Lentement, elle se leva, fit quelques pas. Un sanglot aigu jaillit de sa poitrine et elle tomba devant l'icône. Des paroles brèves, incohérentes, s'échappaient de ses lèvres. Elle perdit connaissance. Ordinov, tout bouleversé, la souleva et la déposa sur le lit. Il restait debout devant elle, ne se rappelant rien. Une minute après, elle ouvrit les yeux, s'assit sur le lit, regarda autour d'elle et saisit la main d'Ordinov. Elle l'attirait vers soi, murmurait quelque chose entre ses lèvres pâles, mais la voix lui manquait. Enfin, ses larmes jaillirent abondantes, brûlant la main glacée d'Ordinov. « Que c'est pénible, pénible. Ma dernière heure vient, » prononça-t-elle enfin dans une angoisse d'épouvante. Elle voulait dire encore autre chose, mais sa langue ne lui obéissait plus, elle ne pouvait proférer une seule parole. Désespérée, elle regardait Ordinov qui ne la comprenait pas. Il se pencha vers elle, plus près, écoutant. Enfin, il lui entendit prononcer nettement ces mots. « Je suis envoûté, on m'a envoûté, on m'a perdu. » Ordinov leva la tête et avec étonnement la regarda. Une pensée affreuse traversa son esprit. Catherine vit son visage contracté. « Oui, on m'a envoûté, » continua-t-elle. « Un méchant homme m'a envoûté, lui. C'est lui, mon assassin. Je lui ai vendu mon arme. Pourquoi ? Mais pourquoi ? As-tu parlé de ma mère? Pourquoi as-tu voulu me tourmenter? Que Dieu te juge! » Un moment après, elle pleurait doucement. Le cœur d'Ordinov battait et souffrait d'une angoisse mortelle. « Il dit, » chuchota-t-elle d'une voix contenue, mystérieuse, « que quand il mourra, il viendra chercher mon âme. Je suis à lui, j'ai vendu mon âme. Il m'a tourmenté. Il a lu dans les livres. Tiens, regarde, regarde son livre. Le voici. Il dit que j'ai commis un péché mortel. Regarde, regarde. » Elle lui montrait un livre. Ordinov n'avait pas remarqué comment il se trouvait là. Machinalement, il le prit. C'était un livre écrit comme les anciens livres des vieux croyants qu'il avait eu l'occasion de voir auparavant. Mais maintenant, il ne pouvait regarder toute son attention concentrée sur autre chose. Le livre tomba de ses mains. Il enlaça doucement Catherine en essayant de la ramener à la raison. « Assez, assez! On t'a fait peur! Je suis avec toi! Aie confiance en moi, ma chérie, mon amour, ma lumière! » « Tu ne sais rien, rien, » dit-elle, en serrant fortement ses mains. « Je suis toujours ainsi, j'ai peur de tout. Cesse, cesse, ne me tourmente plus, autrement j'irai chez lui. » commença-t-elle un instant après, toute haletante. « Souvent, il me fait peur avec ses paroles. Parfois, il prend un livre le plus grand et me fait la lecture. Il lit toujours des choses si sévères, si terribles. Je ne sais ce qu'il lit, je ne comprends pas tous les mots. » Mais la peur me saisit, et quand j'écoute sa voix, c'est comme si ce n'est pas lui qui lisait, mais quelqu'un de méchant qu'on ne peut adoucir. Alors, mon cœur devient triste, triste, il brûle, c'est effrayant. Ne va pas chez lui. Pourquoi vas-tu chez lui? Dit Ordinov, comprenant à peine ses paroles. Pourquoi suis-je venu chez toi? Demande-le, je ne le sais moi-même. Et lui me dit tout le temps, « Prie Dieu, prie !» Parfois, je me lève dans la nuit sombre et je prie longuement des heures entières. Souvent, j'ai sommeil, mais la peur me tient éveillé. Il me paraît alors que l'orage se prépare autour de moi, que ça me portera malheur, que les méchants me déchireront, me tueront, que les saints n'entendront pas mes prières et qu'ils ne me sauveront pas de la douleur effroyable. Ah, toute mon âme se déchire comme si le corps entier voulait se fondre en larmes. Je commence à prier de nouveau et je prie jusqu'au moment où la Sainte Vierge de l'icône me regarde avec plus de tendresse. Alors, Je me lève et je me couche comme une morte. Parfois, je m'endors sur le sol à genoux devant l'icône. Mais il arrive aussi qu'il s'éveille, m'appelle, commence à me caresser, me consoler. Et alors, je me sens si bien, tout devient léger, et n'importe quel malheur peut arriver. Avec lui, je n'ai plus peur. Il a du pouvoir. Sa parole est grande. Mais quel malheur t'est-il arrivé? Ordinov se tordait les mains de désespoir. Catherine devint terriblement pâle. Elle le regarda comme un condamné à mort qui n'espère plus sa grâce. À moi? Ah, je suis une fille maudite. Ma mère m'a maudite. J'ai fait mourir ma propre mère. Ordinov l'enlaça sans mot dire. Elle se serrait contre lui, il sentait qu'un frisson parcourait tout le corps de la jeune femme, et il lui semblait que son âme se séparait de son corps. « Je l'ai enterré, dit-elle, dans le trouble de ses souvenirs et la vision de son passé. Depuis longtemps, je voulais parler. Ah, il me le défendait, avec des prières, des reproches, des menaces. Parfois, lui-même ravive mon angoisse, comme le ferait mon mortel ennemi. » Et maintenant, toutes ces idées me viennent en tête la nuit. Oh, écoute, écoute. C'était il y a longtemps, très longtemps. Je ne me rappelle plus quand, mais cela me semblait être hier. C'est comme un rêve d'hier qui m'aurait rongé le cœur toute la nuit. L'angoisse double la longueur du temps. Assieds-toi ici, près de moi. Je te raconterai toute ma douleur. Que je sois maudite, qu'importe, je te livre toute ma vie. » Ordinov voulut l'en empêcher, mais elle joignit les mains en le priant grâce de l'écouter. Puis, de nouveau, avec un trouble grandissant, elle se mit à parler. Son récit était haché. Dans ses paroles grondait l'orage de son âme. Mais Ordinov comprenait tout parce que sa vie était devenue la sienne, ainsi que sa douleur, et parce que son ennemi se dressait déjà devant lui, grandissait à ses yeux, à chacune de ses paroles, et comme avec une force inépuisable oppressait son cœur et riait de sa colère. Son sang troublé affluait à son cœur et obscurcissait ses pensées. Le vieillard méchant de son rêve, Ordinov le croyait, était en réalité devant lui. C'était par une nuit comme celle-ci, commença Catherine, seulement plus orageuse. Le vent soufflait dans la forêt comme je ne l'avais jamais encore entendu souffler. Ou peut-être est-ce parce que de cette nuit-là date ma perte. Sous ma fenêtre, un chêne fut brisé. Un mendiant, un vieillard tout blanc qui vint chez nous, nous assura qu'il avait vu ce chêne quand il était encore enfant, et qu'il était alors aussi grand qu'au moment où le vent l'abattit. Cette même nuit, je me rappelle tout comme si c'était maintenant, les bateaux de mon père furent détruits par la tempête, et mon père, bien que malade, se rendit aussitôt au bord du fleuve dès que les pêcheurs accoururent le prévenir chez nous à l'usine. Moi et ma mère nous restâmes seuls. Je somnolais, j'étais triste et pleurais amèrement. Je savais pourquoi. Ma mère venait d'être malade, elle était pâle. Elle me répétait à chaque instant de lui préparer son linceul. Tout à coup, on frappa à la porte cochère. Je bondis, mon sang afflua à mon cœur. Ma mère poussa un cri. Je ne la regardais pas. J'avais peur. Je pris la lanterne et allai moi-même ouvrir la porte. C'était lui. J'eus peur. J'avais toujours peur quand il venait chez nous. C'était ainsi de mon bas âge, d'aussi loin que je me souvienne. À cette époque, il n'avait pas encore de cheveux blancs. Sa barbe était noire comme du goudron, ses yeux brillaient comme des charbons, et pas une seule fois il ne m'avait regardé avec tendresse. Il me demandait si ma mère était à la maison. J'ai refermé la porte et lui ai répondu que mon père n'était pas à la maison. « Je le sais, » me dit-il, et tout à coup il m'a regardé de telle façon. Ah, c'était la première fois qu'il me regardait ainsi. Je m'en suis allé. Il restait immobile. « Pourquoi ne vient-il pas ?» me disais-je. Nous entrâmes dans la chambre. « Pourquoi m'as-tu répondu que ton père n'était pas là quand je t'ai demandé si ta mère y était » questionna-t-il. Je me tus. Ma mère était effrayée. Elle se jeta vers lui. Il la regardait à peine. Je voyais tout. Il était tout mouillé, tremblant. La tempête l'avait poursuivi pendant 20 verstes. D'où venait-il? Ma mère ni moi ne le savions jamais. Nous ne l'avions pas vu depuis déjà 9 semaines. Il ôta son bonnet et se débarrassa de ses moufles. Il ne priait pas les icônes, ne saluait pas les maîtres du logis. Il s'assit près du feu. Catherine passa la main sur son visage, comme si quelque chose l'étouffait, mais une minute après, elle releva la tête et continua. Il se mit à parler à ma mère en tatar. Ma mère savait cette langue, moi je ne comprenais pas un mot. Parfois, quand il venait, on me renvoyait. Maintenant, ma mère n'osait pas dire un mot à son propre enfant. Le diable achète mon âme, et moi, contente, je regarde ma mère. Je vois qu'on me regarde, qu'on parle de moi. Ma mère se mit à pleurer. Il saisit son couteau. Plusieurs fois déjà, il lui était arrivé devant moi de saisir un couteau quand il parlait à ma mère. Je me levais et me cramponnais à sa ceinture. Je voulais lui arracher son couteau. Lui grince des dents, crie et veut me repousser. Il me donne un coup dans la poitrine, mais ne me fait pas reculer. Je pensais que j'allais mourir sur place. Mes yeux se voilèrent, je tombais sur le sol sans pousser un cri, et je regardais tant qu'il me resta la possibilité de voir. Il ôta sa ceinture, releva la manche du bras qui m'avait frappé, prit son couteau et me le donna. « Coupe-le, fais ce que tu veux, puisque je t'ai offensé. Et moi, le fier, je me prosternerai devant toi. » Je remis le couteau dans sa gaine. J'étouffais, je ne le regardais même pas. Je me rappelle que j'ai souri sans desserrer les dents et que j'ai regardé sévèrement les yeux tristes de ma mère. Ma mère était assise, pâle comme une morte. Ordinov écoutait attentivement ce récit embrouillé. Peu à peu, le trouble de Catherine se dissipait. Son débit devenait plus calme. Les souvenirs entraînaient la pauvre créature et dispersaient son angoisse sur l'immensité du passé. Il mit son bonnet et sortit sans saluer. Je pris de nouveau la lanterne pour l'accompagner à la place de ma mère qui, quoique malade, voulait le reconduire. Nous arrivâmes à la porte cochère, je me taisais. Il ouvrit la porte et chassa les chiens. Je le regardais, il ôta son bonnet et s'inclina profondément devant moi. Je le vois ensuite qui met la main dans son gousset et en tire un petit écrin recouvert de velours rouge qu'il ouvre. Je le regarde. Ce sont de grosses perles. Il me les offre. « J'ai une belle non loin d'ici, » me dit-il. « C'est pour elle que je les apporte, mais ce n'est pas elle que je les remets. Prends ma jolie !» En ta beauté, écrase sous tes pieds, si tu veux, si, mais prends-les. Je les pris, mais ne les écrasais pas, c'eût été trop d'honneur. Je les pris comme un serpent, sans dire pourquoi je les prenais. Je retournai dans la chambre et les mis sur la table devant ma mère. Ma mère resta un instant sans mot dire, toute pâle, comme si elle avait peur de me parler. Puis, qu'est-ce que c'est, ma petite Catherine ? Et moi je réponds, c'est pour toi que ce marchand les a apportés, moi j'ignore. Je la regardais, elle fondit en larmes. Ce n'est pas pour moi, Catherine, ce n'est pas pour moi, méchante fille, ce n'est pas pour moi. Je me rappelle avec quelle tristesse elle prononça ces paroles, comme si son cœur se fendait. Je levai les yeux. Je voulais me jeter à ses pieds, mais soudain le diable me souffla. « Eh bien, si ce n'est pas pour toi, c'est probablement pour mon père. Je le lui donnerai quand il rentrera, Je lui dirai que des marchands sont venus et ont laissé cette marchandise. Alors ma mère se mit à sangloter. Je lui dirai moi-même quels marchands sont venus et pour quelles marchandises. Je lui dirai ce que tu es, fille bâtarde. Désormais, tu n'es plus ma fille. Tu es une vipère. Tu es une fille maudite. Je me taisais. Mes yeux étaient sans larmes, comme si tout était mort en moi. J'allais dans ma chambre et toute la nuit, j'écoutais la tempête et pensais. 5 jours s'écoulèrent. Vers le soir du 5e jour, mon père arriva, les sourcils froncés, l'air courroucé. Mais en route, la maladie l'avait brisé. Je regarde, son bras était bandé. Je compris que son ennemi s'était trouvé en travers de sa route. Je savais aussi quel était son ennemi, je savais tout. Il ne dit pas un mot à ma mère, ne s'informa pas de moi, et convoqua tous les ouvriers. Il donna l'ordre d'arrêter le travail à l'usine et de garder la maison du mauvais œil. À ce moment, mon cœur m'avertit qu'un malheur menaçait notre maison. Nous restions dans la tente. La nuit passa, encore une nuit de rage, et le trouble envahissait mon âme. J'ouvris ma fenêtre, mon visage brûlait, mes yeux étaient pleins de larmes, mon cœur était en feu, j'étais tout entière comme un brasier. J'avais envie de m'en aller loin, au bout du monde, là où naît l'orage. Ma poitrine se gonflait. Tout à coup, très tard, je dormais, ou plutôt j'étais dans une sorte de demi-sommeil, quand j'entendis frapper à ma fenêtre. « Ouvre !» Je regarde. Un homme est monté jusqu'à ma fenêtre à l'aide d'une corde. Je le reconnus aussitôt. J'ouvris ma fenêtre et le laissai entrer dans ma chambre. C'était lui. Il n'enleva pas son bonnet. Il s'assit sur un banc tout essoufflé, pouvant à peine respirer, comme s'il avait été poursuivi. Je me mis dans un coin. Je me sentais pâlir. « Le père est à la maison ?»«
Oui. »«
Et la mère ?»«
La mère aussi. »«
Tais-toi maintenant, tu entends ?»
J'entends.
Quoi? Le vent sous la fenêtre? Eh bien, ma belle, veux-tu tuer ton ennemi, appeler ton père et perdre mon âme? Je me soumets à ta volonté. Voici une corde. Lis-moi, si le cœur te dit de venger ton offense.
Je me taisais.
Eh bien, quoi? Parle, ma joie! Que faut-il? Il me faut éloigner mon ennemi. « Dire adieu à mon ancienne bien-aimée, et toi, jeune fille, te saluer bien bas. » Je me mis à rire, et je ne sais moi-même comment ces paroles impures entrèrent dans mon cœur. « Laisse-moi donc, ma belle, aller en bas, et saluer le maître de la maison. » Je tremblais, toutes mes dents claquaient, mon cœur était en feu. J'allais lui ouvrir la porte et le laisser pénétrer dans la maison. Seulement, sur le seuil, je dis « Reprends tes perles et ne me donne plus jamais de cadeaux. » Et je lui jetais les crins. Alors, je suis resté seul. Et c'était comme si la tempête grondait autour de moi. Soudain, j'entendis des cris. Les ouvriers de l'usine galopaient dans la cour. On criait « L'usine brûle !» Je me cachais dans le coin. Tous s'enfuyaient de la maison. Je restais seul avec ma mère. Je savais que la vie l'abandonnait depuis 3 jours. Elle était sur son lit de mort. Je le savais, fille maudite. Tout à coup, dans ma chambre éclata un cri faible, comme celui d'un enfant qui a peur dans la nuit. Ensuite, tout devint calme. Je soufflais la chandelle, j'étais glacé. Je cachais mon visage dans mes mains. J'avais peur de regarder. Soudain, j'entends un cri près de moi. Des gens accouraient de l'usine. Je me penchai à la fenêtre, je vis mon père mort, qu'on rapportait, et j'entendis les gens dire entre eux « Il est tombé de l'escalier dans la chaudière bruyante. Ah, c'est comme si le diable y avait poussé !» Je me suis serré contre le lit, j'attendais qui, quoi, je le sais, je me souviens que tout à coup, ma tête devint lourde, la fumée me piquait les yeux, et j'étais heureuse que ma perte fût proche. Soudain, je me sentis soulevé par les épaules.
Je regarde autant que je puis. Lui, tout brûlé. Son habit est chaud et sent la fumée. Je suis venu te chercher, ma belle. J'ai perdu mon âme pour toi. J'avais beau prier, je me ferai jamais pardonner cette nuit maudite, à moins que nous ne prions ensemble. Et il a ri, le maudit. Montre-moi par où passer pour que les gens ne nous voient pas, me dit-il. Je le pris par la main et le conduisis. Nous traversâmes le corridor. J'avais les clés, j'ouvris la porte de la réserve et lui indiquai la fenêtre. Cette fenêtre donnait sur le jardin. Il me prit dans ses bras puissants et sauta avec moi par la fenêtre. Nous nous mîmes à courir. Nous courûmes longtemps. Nous apercevions une forêt épaisse et sombre. Il tendit l'oreille. « On nous poursuit, Catherine. On nous poursuit. On nous poursuit, ma belle. Mais ce n'est pas le moment de se rendre. Embrasse-moi pour l'amour et le bonheur éternel. Mais pourquoi tes mains ont-elles du sang ?»« Du sang, ma chérie, mais c'est parce que j'ai tué vos chiens qui aboyaient. Allez, partons !» De nouveau, nous nous mîmes à courir. Tout d'un coup, nous voyons dans le cheval de mon père. Il avait arraché son licol et s'était enfui de l'écurie pour se sauver des flammes. « Monte avec moi, Catherine. Dieu nous a envoyé du secours. » Je me taisais. « Est-ce que tu ne veux pas ? Je ne suis ni un païen, ni un diable. Je ferai le signe de la croix, si tu veux. » Il se signa. Je m'assis sur le cheval et me serrant contre lui, je m'oubliais sur sa poitrine comme dans un rêve. Quand je revins à moi, nous étions près d'un fleuve large, large. Il me descendit de cheval, descendit lui-même et alla vers les roseaux. Il avait caché là son bateau. « Adieu donc, mon brave cheval. Va chercher un nouveau maître. Les anciens t'ont quitté. » Je me jetai sur le cheval de mon père et l'embrassai tendrement. Ensuite, nous sommes montés dans le bateau, il prit les rames et bientôt nous perdîmes de vue la rive. Quand nous fûmes ainsi éloignés, il abandonna les rames et regarda tout autour. « Bonjour, dit-il, ma mère, rivière nourrice du monde et ma nourrice. Dis-moi, as-tu gardé mon bien en mon absence? Est-ce que mes marchandises sont intactes ?» Je me taisais et baissais les yeux. Mon visage était rouge de honte. « Prends tout, si tu veux, mais fais-moi la promesse de garder et chérir ma perte inestimable. Eh bien, dis-moi un mot, ma belle, éclaire ton visage d'un sourire, comme le soleil chasse la nuit sombre. » Il parle et sourit. Je voulais dire un mot. J'avais peur. Je me tue. « Eh bien, soit, » répondit-il à ma timide pensée. « On ne peut rien obtenir par la force. Que Dieu te garde, ma colombe. Je vois que ta haine pour moi est la plus forte. » Je l'écoutais. La colère me saisit et je lui dis « Oui, je te hais. Parce que tu m'as souillé pendant cette nuit sombre et que tu te moques encore de mon cœur de jeune fille. » Je dis et ne pus retenir mes larmes, je pleurais. Il se tut, mais me regarda de telle façon que je tremblais encore comme une feuille. « Écoute, ma belle, » me dit-il, et ses yeux brillaient merveilleusement. « Ce n'est pas une parole vaine que je te dirai, c'est une grande parole que je te donne. Tant que tu me donneras le bonheur, je serai le maître. » Mais si à un moment tu ne m'aimes plus, inutile de parler. Fais seulement un signe de sourcil, regarde-moi de ton œil noir, et je te rendrai ton amour avec ta liberté. Sache seulement, ma fière beauté, que ce sera la fin de mes jours. Et toute ma chair sourit à ces paroles. Ici, l'émotion interrompit le récit de Catherine. Elle respira et voulait continuer quand soudain son regard brillant rencontra le regard enflammé d'Ordinov fixé sur elle. Elle tressaillit et voulut dire quelque chose, mais le sang lui monta au visage. Elle cacha son visage dans ses mains et l'enfouit dans les oreillers.
Ordinov était troublé au plus profond de lui-même. Une émotion pénible, indéfinissable, intolérable parcourait toutes ses fibres comme un poison et grandissait à chaque mot du récit de Catherine. Un désir sans espoir, une passion avide et douloureuse possédait ses pensées, troublait ses sentiments, et en même temps, une tristesse profonde, infinie, oppressait de plus en plus son cœur. Par moments, il voulait crier à Catherine de se taire, il voulait se jeter à ses pieds, la supplier avec des larmes de lui rendre ses anciennes souffrances, son sentiment pur d'auparavant. Il avait pitié de ses larmes séchées depuis longtemps. Son cœur souffrait, il n'avait pas compris tout ce qu'avait dit Catherine, et son amour avait peur du sentiment qui troublait la pauvre femme. Il maudissait à ce moment sa passion. Elle l'étouffait, et il sentait comme du plomb fondu couler dans ses veines au lieu de sang. « Ah, mon malheur, n'est pas ce que je viens de te raconter, » reprit tout à coup Catherine en relevant la tête. « Ce n'est pas en cela qu'est ma souffrance, mon tourment. » Que m'importe que ma mère m'ait maudite à sa dernière heure, je ne regrette pas ma vie dorée d'autrefois. Qu'est-ce que cela me fait de m'être vendu à l'impur et de porter pour un moment de bonheur le péché éternel? Ce n'est pas en cela qu'est mon malheur, qu'est ma souffrance. Non, ce qui m'est pénible, ce qui me déchire le cœur, c'est d'être son esclave souillé, c'est que ma honte me soit chère, c'est que mon cœur ait du plaisir à se rappeler sa douleur comme si c'était de la joie et du bonheur. Voici où est mon malheur, de ne pas ressentir de colère pour l'offense qui m'a été faite. Un souffle chaud haletant brûlait ses lèvres. Sa poitrine s'abaissait et se soulevait profondément, et ses yeux brillaient d'une indignation insensée. Mais à ce moment, tant de charme était répandu sur son visage, chaque trait était empreint d'une telle beauté que les sombres pensées d'Ordinov s'évanouirent comme par enchantement. Son cœur aspirait à se serrer contre son cœur, à s'oublier avec elle dans une étreinte folle et passionnée, et même à mourir ensemble. Catherine rencontra le regard troublé d'Ordinov et lui sourit d'une telle façon qu'un double courant de feu brûla son cœur. À présent, il s'en rendait compte lui-même. « Aie pitié de moi, épargne-moi !» lui chuchota-t-il en retenant sa voix tremblante. Elle se pencha vers lui, un bras appuyé sur son épaule, et le regarda de si près dans les yeux que leur souffle se confondait. « Tu m'as perdu. Je ne connais pas ta douleur. » Mais mon âme s'est troublée, qu'est-ce que cela me fait? Si ton cœur pleure, dis-moi ce que tu désires et je le ferai. Viens avec moi, allons, ne me tue pas, ne me fais pas mourir. Catherine le regardait immobile, les larmes séchées sur ses joues brûlantes. Elle voulait l'interrompre, le prendre par la main, dire quelque chose et ne trouvait pas les mots. Un sourire étrange parut lentement sur ses lèvres, et un rire perça à travers ce sourire. « Je ne t'ai pas tout raconté, » continua-t-elle enfin. « Je te raconterai encore, seulement m'écouteras-tu. Écoute ta sœur. Je voudrais te raconter comment j'ai vécu un an avec lui. Non, non, je ne le ferai pas. » Une année s'écoula, il partit avec ses compagnons sur le fleuve. Moi, je restais chez sa mère à attendre. Je l'attends un mois, un autre. Un jour, je rencontre un jeune marchand. Je le regarde et je me rappelle les années passées. « Ma chère amie, dit-il après deux mots de conversation avec moi, je suis Alexis, ton fiancé d'autrefois. Nos parents nous avaient fiancés quand nous étions enfants, m'as-tu oublié? Rappelle-toi, je suis de votre village et... que dit-on de moi, chez nous? Oh, les gens disent que tu as oublié la pudeur des jeunes filles, que tu t'es lié avec un bandit, me répondit Alexis en riant. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de moi?
J'avais beaucoup à dire. Son cœur se troublait. Je voulais dire beaucoup, mais maintenant que je t'ai vu, tu m'as perdu, dit-il. Achète aussi mon âme, prends-la, piétine mon cœur, raille mon amour, ma belle. Je suis maintenant orphelin, je suis mon maître et mon âme est à moi. Je ne l'ai vendue à personne. Je me mis à rire et il me parla encore plusieurs fois. Il resta tout un mois dans le village. Il avait abandonné son commerce, congédié ses ouvriers, il restait seul. J'avais pitié de ses larmes d'orphelin. Et voilà qu'une fois, le matin, je lui dis « Alexis, attends-moi la nuit venue près du ponton. Nous irons chez toi. J'en ai assez de cette vie. » La nuit vint, je préparais mon paquet. Tout d'un coup, je regarde. C'est mon maître qui rentre, tout à fait à l'improviste. « Bonjour. Allons, il y aura de l'orage, il ne faut pas perdre de temps. » Je le suivis, nous arrivâmes au bord du fleuve. Nous regardons, il y a là une barque avec un batelier. On dirait qu'il attend quelqu'un. « Bonjour, Alexis, que Dieu te vienne en aide. Quoi ? Tu es attaché au port ? Tu te hâtes d'aller rejoindre les bateaux ? Allez, emmène-nous, moi et ma femme. J'ai laissé ma barque là-bas et ne puis aller à la nage. » « Assieds-toi, » dit Alexis, et toute mon âme eut mal quand j'entendis sa voix. « Assieds-toi avec ta femme, le vent est bon pour tous, et dans ma demeure, il y aura place pour vous. » Nous nous sommes assis, la nuit devenait sombre, les étoiles se cachaient, le vent soufflait, les vagues s'enflaient. Nous nous sommes éloignés à une verste de la rive. Tous trois, nous gardions le silence. « Quelle tempête !» dit mon maître. « C'est du malheur, cette tempête. Je n'ai encore jamais vu la pareille sur ce fleuve. Oh, c'est lourd pour notre barque, elle ne pourra pas nous porter tous les trois. »« Oui, elle ne pourra pas nous porter tous les trois, » dit Alexis. « C'est donc qu'un de nous est de trop. » Sa voix tremblait comme une corde. Eh quoi, Alexis, je t'ai connu tout petit enfant. J'étais comme un frère avec ton père. Dis-moi, Alexis, est-ce que tu pourrais gagner la rive à la nage ou périrais-tu? Oh, non, je n'y arriverai pas, non. Ah non, je n'y arriverai pas et périrai dans le fleuve. Écoute maintenant, toi, Catherine, ma perte inestimable. Je me rappelle une nuit pareille, seulement la vague ne montait pas comme maintenant, les étoiles brillaient, la lune éclairait. Je vais te demander si tu ne l'as pas oublié. Oh, je m'en souviens, répondis-je. Alors, si tu ne l'as pas oublié, tu n'as pas oublié non plus ce qui fut promis. Comment un brave garçon enseigna à sa belle le moyen de reconquérir sa liberté, hein? Non, je ne l'ai pas oublié, dis-je, ni morte ni vive. Tu ne l'as pas oublié, alors voilà, maintenant la barque est trop chargée pour l'un de nous. Le moment est venu. Alors parle, ma belle, parle, ma colombe, dis ta parole douce. Je ne l'ai pas prononcée, chuchota Catherine en pâlissant. Elle n'acheva point. « Catherine !» éclata soudain une voix sourde et rauque. Ordinov tressaillit. Dans la porte se tenait Mourine. Il était à peine vêtu, une couverture de fourrure jetée sur lui, pâle comme un mort. Il les fixait d'un œil presque fou. Catherine, de plus en plus pâle, le regardait aussi comme hypnotisée. « Viens chez moi, Catherine !» prononça le vieillard d'une voix perceptible. Il sortit de la chambre. Catherine, toujours immobile, regardait dans l'espace comme si le vieillard se trouvait encore devant elle. Mais tout à coup, le sang pourpra ses joues pâles. Ordinov se rappela leur première rencontre. « Alors, à demain, mes larmes » dit-elle presque en souriant. « À demain. Rappelle-toi où je me suis arrêté. Choisis un des deux, ma belle. Qui tu aimes et que tu n'aimes pas, tu te rappelleras. » Tu attendras une nuit, ajouta-t-elle en posant les mains sur les épaules d'Olympio et le regardant avec tendresse.
Catherine, ne va pas chez lui. Ne te perds pas, il est fou,
chuchota Ordinov, qui tremblait pour elle.
Catherine, appela la voix derrière la cloison.
Quoi? Tu penses qu'il me tuera? Demanda Catherine en riant.
Bonne nuit, mon cœur, mon pigeon, mon frère, dit-elle en appuyant sa tête contre sa poitrine, tandis que tout d'un coup des larmes coulaient de ses yeux.
Ce sont les dernières larmes. Dors donc, mon chéri. Tu t'éveilleras demain pour la joie. Elle l'embrassa passionnément.
Catherine, Catherine, murmura Ordinov en tombant à genoux devant elle et tâchant de la retenir.
Catherine!
Elle se retourna, lui fit signe de la tête en souriant et sortit de la chambre. Ordinov l'entendit entrer chez Mourine. Il retint son souffle et écouta, mais aucun son ne lui parvenait. Le vieux se taisait, ou peut-être était-il de nouveau sans connaissance. Ordinov voulait aller près d'elle, mais ses jambes chancelaient. Il se sentit pris de faiblesse